ne savais pas ce que c'était. Ce que j'ai pris pour la Voie lactée, c'était une espèce d'écho, de carte postale, c'était une espèce de figuration, mais rien à voir avec ce sentiment qu'on a d'être dans le cosmos, mais vraiment d'être dans le cosmos, et en même temps de savoir que le cosmos est à portée de main. C'est une étrange sensation d'imaginer effectivement que si on tend la main, on va décrocher une étoile, tellement le ciel semble bas, ou tellement nous semblons haut, ou tellement le ciel finalement nous donne l'impression de faire partie de la Terre, ou la Terre de faire partie du ciel. Cette expérimentation est tout à fait singulière, et si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir expérimenter ce genre de choses, d'abord vous pouvez le faire. Il y a toujours des possibilités d'aller dans des déserts où la nuit, vous découvrirez effectivement ce qu'est véritablement la nuit, parce que dans les villes comme les nôtres ou dans les pays comme les nôtres, il y a une pollution lumineuse qui fait qu'on ne sait pas ce que c'est. Et là, effectivement, vous aurez une expérience existentielle tout à fait particulière et puis une expérience qui conduit au sublime. On aura l'occasion de parler du sublime une autre fois. Il se fait que si vous faites quelques voyages en avion aussi, vous voyez bien, et que vous faites des voyages de nuit, vous voyez bien à quoi ressemble la lumière sur la planète, à quoi ressemblent les lumières artificielles. C'est assez sidérant. Quand vous survolez Londres de nuit, ou quand vous traversez la France de Nice à Caen, par exemple, dans ce sens-là, eh bien, vous allez voir tout ce qui se passe sur le Rhône, sur les villes, sur Paris, sur la région parisienne. Londres, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette étendue de lumière ? C'est Londres. Et vous vous dites effectivement qu'il n'y a plus que de la lumière artificielle. Donc, je vous ai parlé de la lumière en vous disant le rôle qu'elle avait dans le cosmos, le rôle qu'elle avait pour les hommes préhistoriques. Eh bien, il faut imaginer cette lumière-là, c'est-à-dire la vraie lumière naturelle, pas du tout la lumière artificielle, bien sûr, et on verra, du moins je vais essayer de vous proposer dans cette séance, on verra comment la disparition, l'effacement de cette lumière naturelle et le surgissement de la lumière artificielle a modifié notre façon de voir les choses, notre pensée, notre perception, notre imagination, notre rapport aux choses, au monde, à la nature. L'électricité a fait donc beaucoup de mal. Beaucoup de bien, bien sûr, tout le monde est content d'imaginer. Voyez, souvenez-vous de la chanson de Jean Ferrat, hein, on a l'électricité, on a le chauffage, on a le frigidaire, on a la télévision, tout ça est formidable, sauf que on a perdu notre âme. Alors vous verrez, la question n'est pas évidemment de revenir aux chandelles, mais de réfléchir à ce monde que nous avons perdu, qui reste présent en nous, mais qui a été remplacé par un monde qui nous semble naturel alors qu'il est purement artificiel. Nous sommes des artefacts. Nous sommes des produits, des objets. Nous sommes produits par la lumière artificielle et nous sommes incapables de décoder la véritable lumière naturelle. Tout ce que les hommes de l'Antiquité savaient faire, et plus que l'Antiquité, c'est-à-dire les hommes préhistoriques, nous ne le savons plus, évidemment. Quand je vous parlais des relations avec les cycles qui permettent les journées, les jours et les nuits, ou les cycles qui permettent les années, printemps, été, automne, hiver, tout ce qui nous permettait de comprendre que, même de manière imprécise, mais qu'il y avait des équinoxes, qu'il y avait des solstices, qu'il y avait des moments dans l'année où la nuit était la plus longue et d'autres où la nuit était la plus courte, tout ce qu'on pouvait savoir empiriquement, qui peut le savoir aujourd'hui ? Qui peut le découvrir ? Que peut découvrir de ce ciel un enfant qui n'aura été qu'urbain ? C'est drôle d'ailleurs que ce mot « urbain » donne l'impression que finalement c'est l'habitant des villes, mais quelqu'un qui a de l'urbanité, c'est quelqu'un qui a de la politesse, de la convenance, qui est bien élevé. C'est assez paradoxal. Moi je pense que l'urbs, c'est-à-dire la ville selon les Romains, la ville est un lieu de déshumanisation. C'est même d'une certaine manière un lieu d'inhumanité au sens étymologique. L'humain ne peut pas exister dans une ville. L'humain, il existe dans un village, dans une campagne. Il existe au beau milieu de la mer. Si vous vous retrouvez sur un bateau en plein milieu de la mer avec la pleine nuit, et je ne dis pas avec la pleine mer, ça peut vous arriver aussi, mais avec une mer qui secoue, qui tape, eh bien, d'un seul coup, vous êtes au milieu du cosmos. Vous savez ce que sont les peurs ancestrales. Vous savez ce que sont les peurs de la forêt, vous savez ce que sont les peurs de la mer, vous savez ce que sont les peurs du désert, vous savez ce que sont les peurs de la campagne, parce que vous avez des sons, des bruits, des odeurs, des parfums qui ne vous sont pas connus et qui réveillent en vous l'animal qui existait. Cet animal, il ne s'agit pas de le réveiller pour lui donner les pleins pouvoirs, il s'agit simplement de dire qu'il est en nous et que cette part en nous, plutôt que de la dresser, nous l'avons détruite. Il ne fallait pas détruire cette part-là. Il fallait l'adresser, en faire quelque chose, c'est-à-dire ne pas oublier que nous étions porteurs d'une capacité, justement, à ressentir des émotions, des sensations, en pleine mer, au milieu du monde.